J'ai compté 3 porcs par personne.
3 porcs ?
Pourquoi on n'a pas de tracteur ?
Tu veux te lancer dans l'agriculture maintenant ?
Le légume. Parce que vous avez dit gratin.
T'enfiler les OGM, les pesticides, les prions et compagnie, mais vas-y.
Je vois pas le rapport avec la Bretagne.
La Bretagne est la première région agricole de France. 12% de la production brute standard nationale est bretonne et plus de la moitié du territoire est consacrée à l'agriculture. La région est également première pour la production animale. Mais le modèle intensif actuel mis en place depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale pose question. Algues vertes, nitrates, sols morts et rivières polluées sont autant de conséquences directes d'un secteur qui épuise les sols et les femmes et les hommes qui les travaillent.
Dans l'épisode précédent, nous avons parlé des conséquences physiques et psychologiques de ce modèle sur les agriculturistes en Bretagne. Dans ce quatrième et dernier épisode, nous allons nous intéresser à celles et ceux qui souhaitent changer de modèle et qui proposent des alternatives.
C'est pas au pouvoir politique en place de construire ça, c'est reprendre le bouquin qui vient de sortir de Nicolas Da Silva, « La bataille de la sécu ». C'est le film « La sociale » de Gilles Perret qui sort en 2016. C'est les travaux de Bernard Friot hein, pour dire la sociale, c'est l'inverse de l'état social. Ambroise Croizat, quand il crée la sécurité sociale, il vise à créer un outil pour permettre au peuple de gérer démocratiquement l'économie. Et pour moi, c'est de ça dont on a besoin en agriculture, de sortir complètement de l'état qui vise à accompagner tout le profit capitaliste et faire des politiques sociales uniquement pour maintenir la paix sociale et faire en sorte que ça tienne. Et ça, c'est globalement la façon dont l'État va s'instituer en France depuis la Révolution française. Et donc de dire, à l'inverse de ça, la sociale, la sécurité sociale, c'est une forme d'auto-organisation des travailleurs pour décider de l'économie et de comment ça se passe. Et donc se revendiquer de la sécurité sociale, c'est de l'alimentation, hein. C'est ça, c'est dire, donnons au peuple les moyens de définir ce qu'ils veulent comme système de production agricole et alimentaire, de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à cela, et de construire un contrat social avec le monde de la production, par le conventionnement, pour permettre aux agriculteurs, aux agricultrices, de venir fournir de l'alimentation par ce biais-là.
Et Flandin fait agriculteur dans les Côtes d'Armor, dans une ferme avec un modèle bien particulier.
Ce qu'on a justement voulu, c'est que ce qu'on produisait paie du travail et pas du capital. Et donc on s'est, dans la manière où on s'est installé, on a essayé de trouver le modèle qui nous permet justement de ne pas passer notre carrière à rembourser du capital. Donc on a créé une SCI citoyenne qui rassemble 300 citoyens. Et donc c'est 300 citoyens regroupés sous la forme d'une SCI, d'une société civile immobilière, et propriétaires de l'ensemble des bâtiments de la ferme et de 47 hectares sur 65.
C'est un coût sociétal énorme, les conséquences des pesticides. Ça rend tellement malade tellement de gens que c'est un coût de société pour la société qui est énorme, mais qu'on ne voit pas. Tout ça, c'est dilué dans l'ensemble des dépenses de santé. Et nous, ce qu'on demande, c'est que, d'une part, les rentes, déjà, soient prises en charge, non pas par les MSA, mais par les fabricants, les vendeurs de pesticides. C'est à eux de payer. C'est pas à la mutualité sociale agricole de payer. Et au-delà, ce qu'on veut faire reconnaître, c'est que notre objectif, c'est l'interdiction des pesticides. Pourquoi ? Et une agriculture biologique, puisque si on n'utilise plus de pesticides, la seule vraie agriculture qui ne pénalise pas ni l'air, ni l'eau, ni la santé, ni les sols, c'est l'agriculture qui n'utilise pas de produits chimiques de synthèse. C'est une agriculture propre, sans coût supplémentaire. On dit souvent que le bio, c'est fait pour ceux qui ont de l'argent. Le bio, c'est plus cher. Tout le monde ne peut pas se payer du bio. Si on réintègre dans le prix des aliments conventionnels, dits de l'agriculture conventionnelle, les coûts de cette agriculture, si on réintégrait ça dans le coût de ce qu'on mange, le traitement de l'eau, le traitement de l'air, les maladies, etc., tous les problèmes d'environnement, la disparition de la biodiversité et compagnie, si on réintroduisait ça dans... On faisait payer à ceux qui vendent des produits et fabriquent ces produits-là ces produits-là ne seraient inachetables par personne. Tout le monde mangerait bio. Voilà. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que le coût sociétal il soit pris en charge, non pas par les, nous, la collectivité, mais par ceux qui vendent et fabriquent ces produits.
La première chose à faire, c'est d'engager la baisse du cheptel, mais pas une baisse du cheptel où on laisse les paysans tout seuls à gérer ça. C'est-à-dire qu'on accompagne ce changement de cheptel pour avoir plus de paysans, mais qui soient dans les champs, avec des animaux qui sont dans les champs, et des animaux qui sont avec un bien-être animal plus important. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. On les a testées avec l'agriculture bio, les pratiques de pâturage extensif depuis 20 ans. Aujourd'hui, il faut les généraliser, en fait. Nous, ce qu'on demande, c'est la généralisation de ces bonnes pratiques. Et ça se fait par des aides et aussi par des redevances sur les pratiques les plus polluantes. Donc, par exemple, sur les engrais azotés les plus polluants, par des contrôles renforcés. Aujourd'hui, sur les bassins versants algues vertes, on contrôle en moyenne chaque année 5% des exploitations. Donc on est vraiment sur une absence de contrôle, une absence de réglementation qui est patente et qui s'aggrave avec le temps. On contrôlait 30% des exploitations dans les années 2000. Aujourd'hui, on est descendu à 5%. Donc on voit bien qu'on a un abandon. C'est vraiment nos services publics qui sont aujourd'hui exsangues et c'en est un très bon exemple.
Il faut refondre complètement la politique agricole européenne. Et c'est notre combat. Je pense que c'est l'intérêt des citoyens, mais c'est surtout aussi l'intérêt des paysans. Parce que si on modifie cette agriculture, eh bien on pourra installer des paysans. Nous disons qu'on peut installer en France entre 100 et 200 000 paysans avec une forme d'agriculture différente. Et je crois que ça, c'est un véritable combat pour le 21e siècle.
Aujourd'hui, la situation structurelle, enfin, je parle de la Bretagne notamment, mais... Là, dans les 10 ans, moins de 10 ans qui viennent, il y a peut-être la moitié des paysans qui partent en retraite. Et là, on s'aperçoit qu'il manque de gens à s'installer. Là, en plus, les perspectives des filières bio et tout sont pas très, très positives. Donc, c'est pas ça qui va aider. Parce qu'aujourd'hui, faut pas se cacher, la plupart des gens qui vont s'installer, c'est des gens hors cadre familiaux. Et ces gens-là sont, les études le montrent, plutôt attirés vers des modèles bio. Donc si on parle de système d'élevage, c'est plutôt herbagé, etc. Voilà, après, moi, ce qui me fait peur vraiment, c'est que, donc structurellement, dans les 10 ans, ce qui va passer, c'est que beaucoup de terres vont changer de main, et qu'aujourd'hui, les seuls capables de, et les seuls qui ont les moyens et vraiment la volonté de le faire, c'est de plus en plus de grosses fermes, et qui aujourd'hui vont même chercher des capitaux ailleurs. Donc en fait, on est en train de, et on le savait finalement, mais on est en train de reproduire le modèle un peu anglo-saxon de l'agriculture, c'est-à-dire que c'est des fermes qui sont aujourd'hui qui appartiennent à des holdings avec des actionnaires qui ont des capitaux, et derrière on met des managers salariés, et donc on sort complètement du modèle agricole, ce que le syndicat dominant prône finalement, hein. De sortir, il faut libéraliser, il faut sortir de ce qui nous empêche de produire, c'est le modèle familial, etc. Alors que derrière le modèle familial, on veut juste dire modèle à taille humaine.
Ce qui change, c'est que vous pouvez discuter de ce que vous faites avec un organisme qui est là pour récupérer votre production. Si vous le souhaitez, c'est-à-dire que l'idée, c'est de poser comme un cahier des charges. La société aimerait, par exemple, sortir de pesticides, sortir de tout un tas de bâtiments, d'élevage intensif, de choses comme ça. Et donc, ce qui change pour l'agriculteur, c'est qu'il a ça, et il a un prix correct s'il va vers ça. Donc, économiquement, il peut le faire. Et si c'est compliqué parce qu'il y a des questions... d'endettement, de prêts en cours, de choses à rentabiliser, à finir de rentabiliser, en discuter, poser sa situation. Nous, on part sur le principe de dire qu'il faudra pouvoir construire un prix rémunérateur avec les fermes, et donc voir par rapport à là où en sont les agriculteurs, qu'est-ce que ça coûte de transformer le système de production exactement, et s'engager par la suite sur cette voie de la transition de système avec l'assurance qu'on pourra s'en sortir sans avoir l'épée de Damoclès au-dessus de la tête, hein, de « est-ce que j'arriverai à vendre en bio ?» de « est-ce que je ne vais pas avoir des mauvaises années de production et que je vais complètement me louper ?» Tout ce risque financier qui est extrêmement dur à supporter aujourd'hui pour celles et ceux qui produisent quand on est déjà endetté et tout ça.
Merci à vous de nous avoir écoutés tout au long de ces 4 épisodes sur le modèle agricole intensif breton On remercie toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions. Odette, Daniel, Mathieu Dalmé, Pauline Pénaubert, Eflam Lintanf et Michel Bénard. Vous pouvez écouter et réécouter les différents épisodes de ce documentaire en ligne sur le site de la radio c-lab.fr.